Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, Anarchy in the UK. Bonjour Denis Barranger.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous y dirigez l'Institut Michel Villet. Vous êtes spécialiste du droit constitutionnel britannique. Et parmi vos ouvrages, je citerai au PUF « Écrire la Constitution non écrite, une introduction au droit politique britannique ». Alors, Anarchy in the UK, anarchie au Royaume-Uni, quoi de mieux que ce titre des Sex Pistols, hymne fondateur de la musique punk, pour tenter de qualifier la situation politique au pays du Brexit. Suspension des travaux du Parlement, mise en minorité du gouvernement, défection du propre frère du Premier ministre, exclusion de députés conservateurs frondeurs et toujours pas la moindre certitude sur la date de sortie de l'Union européenne. Christine O'Crane vient d'y consacrer l'épisode du jour d'Affaires étrangères. Alors il y a deux façons, pas forcément contradictoires d'ailleurs, d'appréhender ce feuilleton à rallonge. Soit en considérant qu'il témoigne d'une déliquescence de la démocratie britannique, incapable d'assumer et de respecter la souveraineté populaire, à savoir le résultat du référendum de 2016 sur la sortie de l'Union européenne. Soit en faisant au contraire le constat d'une incroyable plasticité de son système institutionnel, une capacité à supporter les chocs et à faire vivre le débat en toutes circonstances. Le parlementarisme britannique, fruit d'une longue maturation, a longtemps fait figure de modèle pour les systèmes démocratiques. Mais est-il encore un modèle à suivre ? Alors, Anarchy in the UK, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Denis Barranger. Alors, la situation anarchique, on la pense ici dans notre titre au sens de désordre, de chaos politique. Est-ce que vous diriez que c'est une bonne façon pour commencer l'émission et pour définir ce qui se passe depuis des semaines au palais de Westminster ?
C'est sûrement une situation qui doit amuser beaucoup les survivants de Sex Pistols, n'en pas douter, qui considéraient que le régime monarchique était un régime fasciste, dans la chanson célèbre. En tout cas, on a là la confrontation d'un choix politique fort qui était de quitter l'Union européenne et d'une énorme difficulté gouvernementale qui est comment mettre en musique cette décision. Et pour le moment, les Britanniques n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas politiquement. Le Parlement a échoué à imposer, je dirais pas sa volonté, mais une volonté quelconque. Theresa May a dû démissionner parce qu'elle a échoué à proposer son deal au Parlement, qu'il a rejeté trois fois. Ce qui est arrivé dans la dernière semaine qui vient de s'écouler, c'est que la crise politique est devenue une crise constitutionnelle, en ce sens qu'il y a eu suspension du Parlement. Dans le très peu de temps qu'ont eu les parlementaires avant la suspension de la session, Boris Johnson a fait l'objet d'une attaque en règle de la part des parlementaires, de frondeurs, de 21 frondeurs de son propre parti qui ne voulaient pas du no deal, c'est-à-dire de se présenter à Bruxelles en refusant tout accord et donc d'une sortie de l'Union sèche. Et il menace de dissoudre. Il s'est passé beaucoup de choses dans la dernière semaine. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'étape d'après.
Allez, il a fait l'objet d'attaques. Il y répond aussi hein, aux attaques, ce qui donne une ambiance extrêmement sonore, comme on a encore pu le constater cette semaine à la Chambre des communes. Écoutez notamment cet échange entre Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes, et le Premier ministre Boris Johnson.
The Prime Minister has had 2 days in office before the summer recess and then planned to prorogue Parliament. Yesterday, he lost one vote, his first vote in Parliament. He now wants to dissolve Parliament. He's desperate, absolutely desperate to avoid scrutiny.
Mr. Speaker, he makes a contrast between this government and his own proposals. The contrast could not be clearer. He thinks, we think that the friends of this country are to be found in Paris and in Berlin. And in the White House, and he thinks that they're in the Kremlin, and in Tehran, and in Caracas.
Voilà, alors Jeremy Corbyn qui s'exprimait le premier, qui disait voilà, le Premier ministre a perdu un vote, son premier vote au Parlement. Maintenant, il veut le dissoudre. Il est tellement désespéré qu'il veut éviter un nouvel examen du texte. Et la réponse de Boris Johnson à propos de Corbyn, en tout cas, on voit bien la différence entre la position de notre gouvernement et ses propres propositions à lui. Nous, nos amis sont à Paris, à Berlin ou à la Maison-Blanche. Vous, les vôtres amis, sont au Kremlin, à Téhéran ou à Caracas. Ça contraste beaucoup quand même ces échanges qu'on découvre, ou peut-être d'ailleurs qu'on redécouvre à la faveur de cette crise autour du Brexit, Denis Barranger, avec l'idée qu'on peut avoir de la démocratie britannique, une démocratie apaisée.
Apaisée, elle ne l'est pas toujours. Il y a eu des grandes crises politiques, il y a eu des combats très rudes. Mais là, vous avez deux plaques tectoniques qui se rencontrent. Vous avez Jeremy Corbyn qui fait une attaque de l'opposition classique avec des arguments classiques et en respectant les règles de parole à Westminster. Et vous avez le Premier ministre qui commence par « he ». Il ne devrait pas dire ça. Il devrait dire « the right honorable gentleman ». Il devrait dire, il ne devrait pas le citer en disant son nom ou en disant lui. Il devrait le citer selon les règles de l'étiquette, de la politesse coutumière de la Chambre des communes. C'est juste un indice. Vous avez un discours d'opposition classique face à un discours populiste.
C'est intéressant quand vous évoquez l'étiquette, parce qu'on a quand même le sentiment que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, tous les parlements ont leur rituel. Alors, à Westminster, à la Chambre des communes, c'est particulièrement vrai.
Voilà. C'est pas un gouvernement apaisé, parce que c'est un gouvernement où il y a des crises politiques tout à fait violentes, où on est capable de canaliser ces crises politiques, justement, au Parlement. Il s'y passe des choses, mais c'est normalement un gouvernement modéré, dans lequel, modéré au sens de tempéré, dans lequel, normalement, certaines règles, certaines conventions de la Constitution, certaines règles parfois écrites aussi, viennent modérer la discussion politique pour la rendre féconde et qu'il n'y ait pas de crise. Là, on est un petit peu en sortie de route. Et il est à penser que c'est une sortie de route volontaire de Boris Johnson parce qu'il a une stratégie de parler directement au peuple et de passer outre, de court-circuiter le Parlement.
Il n'y a pas un peu de folklore aussi là-dedans ?
Écoutez, c'est difficile dans le discours populiste de savoir si c'est du folklore ou si ça n'en est pas. Et c'est étonnant de la part d'un Premier ministre conservateur de basculer dans une rhétorique à la Salvini. C'est un peu étonnant. Mais c'est quand même, je pense, le signe, l'indication de quelque chose de spécial qui se passe. Sir Nicholas Soames, petit-fils de Churchill, en démissionnant, a dit « Je suis extrêmement inquiet pour mon parti et pour mon pays. » Il aurait pu dire qu'il l'était pour la Constitution. Il est en train de se passer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. On le verra dans les semaines qui viennent.
Est-ce que la pratique, Denis Barranger, veut que quand un chef de gouvernement britannique, que ce soit Boris Johnson ou ses prédécesseurs, vient au Parlement, il doit adopter forcément une attitude modeste, si on prend la comparaison avec notre système ici, où c'est le chef de l'exécutif qui est le véritable chef politique du pays. Parce que là, c'est, les rapports sont différents. Et quand on rentre dans l'enceinte du Parlement, il faut peut-être, comment dire, faire attention à ce qu'on fait.
Vous avez raison. Le Parlement, la Chambre des communes britanniques, c'est beaucoup plus petit qu'un Parlement à la française. Ils ne peuvent pas, les MPs ne peuvent pas tous y siéger en même temps.
Les MPs, ce sont les députés.
Oui, les députés ne peuvent pas tous y siéger en même temps. Les pratiques remontent au XVIIe ou au XVIIIe siècle. C'est un monde oligarchique, il ne faut pas se le cacher. C'est une démocratie à composante oligarchique. Et une autre grande différence avec la France, c'est que le Premier ministre est membre du Parlement. Il n'a pas démissionné, il n'y a pas règle de non-cumul comme dans la Constitution française. Donc Boris Johnson, il est encore membre du Parlement. Donc tout ça fait qu'il y a normalement une symbiose. C'est effectivement un univers, on parle parfois de club, ou une atmosphère en tout cas plus feutrée, certainement.
Est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs que l'exiguïté des lieux, Denis Barranger, a pu modeler en partie le parlementarisme britannique, que ça a eu un effet aussi sur la façon d'y faire de la politique ?
Alors, certainement, à cause de la raison que j'ai dite tout à l'heure, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne ? C'est un régime monarchique qui devient oligarchique. L'aristocratie prend conscience qu'il faut démocratiser le système, elle fait adopter des lois électorales vers l'avènement du suffrage universel, et la démocratisation britannique fait de la Grande-Bretagne une des démocraties les plus au point du monde. Mais la strate d'oligarchie, elle est toujours là. Regardez la famille de Boris Johnson, George Osborne qui était ministre sous David Cameron, il y avait des Osborne au gouvernement au XVIIe siècle. Donc si vous voulez, faut quand même comprendre ça quand on est français, ils n'ont pas eu 1789, ils n'ont pas eu ce que ça signifie symboliquement. C'est néanmoins une grande démocratie, mais c'est une grande démocratie parlementaire avec une composante de gouvernement oligarchique qui jusqu'à maintenant fonctionnait bien, il faut bien le reconnaître.
Est-ce que c'est cette dimension oligarchique, Denis Barranger, qui fait que les parlementaires britanniques, à commencer, puisque ce sont eux qui ont le véritable pouvoir législatif, par ceux de la Chambre des communes, est-ce que c'est ce qui explique le fait qu'ils ont eu du mal, peut-être, à accepter et à mettre en œuvre ce fameux Brexit, c'est-à-dire une difficulté à assumer, à accepter le suffrage populaire qui s'est passé en dehors de leur rang?
Je ne crois pas que ce soit ça qui s'est passé. Je pense que le référendum était une question posée très abrupte. C'était « leave or remain », voulez-vous rester ou voulez-vous partir? Et qu'ensuite, la mise en œuvre de la réponse à cette question n'allait pas de soi Et la réponse n'était pas contenue dans la réponse au référendum. Avec ça, 75% des députés avaient voté pour rester dans l'Union européenne. Donc on est quand même, comme vous dites, dans une phase de découplage entre une opinion qui a quand même à 52% à voter pour le Brexit. Moi, je pense que ce vote pour le Brexit n'est ni accidentel ni conjoncturel. Je pense que c'est une décision structurelle des Anglais et que les conditions de triche, de manipulation de l'opinion, l'affaire Cambridge Analytica ne changent rien à ça. Mais partant de là, même si aujourd'hui la plupart des hommes et des femmes politiques britanniques sont réconciliés avec l'idée du Brexit, comment on le fait ? Ça, c'était pas prévu. Si vous voulez, intellectuellement, on serait tenté d'en revenir à des idées à la Jean-Jacques Rousseau et de se dire, il y a la souveraineté d'un côté et le gouvernement de l'autre. Bah, une fois que la décision souveraine a été prise, on pourra revenir là-dessus, parce que la souveraineté du peuple, elle est spéciale au Royaume-Uni. La manière de gouverner pour faire que ça se réalise, il faut l'inventer, c'est au gouvernant de le faire.
Ça n'était pas prévu, Denis Barrange, et ça veut dire quoi ? Qu'il y a une forme de faiblesse, de manque du droit institutionnel britannique ?
Alors, il y a deux dimensions. La dimension conjoncturelle, c'est que quand David Cameron convoque ce référendum en 2016, c'est certes prévu dans le programme de son parti conservateur, mais lui-même...
Et puis, il a le droit de le faire.
Alors, il a besoin d'une loi du Parlement pour le faire. C'est un référendum qui n'est pas contraignant. Le Parlement aurait pu ignorer l'opinion exprimée. C'est un référendum d'opinion. C'est une sorte de sondage grandeur réelle. C'est pas un référendum à la française. En France, quand le peuple vote par des référendums, il fait la loi. Il se substitue au Parlement. Au Royaume-Uni, rien de tout ça. Le Parlement reste souverain légalement. Bon, quand Cameron fait ça, lui, il veut rester dans l'Union européenne. Il utilise ça pour calmer son propre parti, garder l'unité du Parti conservateur et faire pression sur ses partenaires de l'Union européenne pour négocier un réaménagement de l'Union européenne, ce que d'ailleurs il obtient. Mais il s'attend pas à perdre ce référendum. Donc, il pose une question très abrupte. Il lance, comment dirais-je, des dés sur la table verte du casino. Il perd. Mais il ne sait pas ce qu'il va faire après, il démissionne tout de suite. Le Brexit, c'est quelque chose d'une très grande technicité. Ce sont des milliers de lois, de règlements, de choses à faire pour sortir de l'Union européenne. On pourra en reparler, moi je pense qu'en réalité on ne sort pas de l'Union européenne. On y rentre, mais on n'en sort pas. Mais en tout cas, la réalisation technique de ça n'était pas inscrite dans la décision du peuple.
Vous disiez tout à l'heure, Denis Barranger, je ne vais pas le dire exactement comme vous l'avez formulé, mais vous me reprendrez, que en gros, l'idée de souveraineté populaire, en tout cas, était assez différente selon qu'on se situe d'un côté ou de l'autre de la Manche. En quoi cette approche peut être différente de la nôtre ?
Je vais vous dire. On a un article de notre Constitution, l'article 3, qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc en France, la nation est souveraine et la nation, c'est, disons, le peuple français pour se simplifier la tâche.
Ça n'existe pas au Royaume-Uni ?
Non, au Royaume-Uni, vous avez la souveraineté politique qui est reconnue implicitement au peuple, c'est une vraie démocratie de plein exercice, mais la souveraineté juridique, c'est le Parlement. Ça veut dire que les lois du Parlement, c'est les actes les plus élevés du système. Il n'y a pas de constitution écrite au-dessus, il n'y a pas de juge constitutionnel. Quand le Parlement fait une chose, c'est techniquement souverain. Donc, pour faire le Brexit, il faut toute une série de lois. Et il faut que le Parlement les vote, ces lois. C'est pas le peuple n'a rien décidé de précis, si vous voulez. Il a exprimé, on peut dire, c'est un grand sondage d'opinion qui s'impose parce qu'on est en démocratie. Puis il y a un juriste allemand très douteux parce qu'il a un passé politique nazi, et Carl Schmitt, qui aurait dit c'est une décision constitutionnelle parce que c'est un choix sur l'existence politique de l'État. Qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel pour un pays que de continuer à participer à l'Union européenne, de s'intégrer dans quelque chose de supranational, ou au contraire de vouloir son autonomie politique totale?
Mais cette approche-là, est-ce qu'elle est encore très largement partagée par les Britanniques, Denis Barranger, ou bien est-ce qu'il peut y avoir une remise en cause de ce système de démocratie représentative comme il existe en France? C'est-à-dire c'est une notion qui fait débat, depuis d'ailleurs l'invention française de la démocratie représentative, on en débat. Est-ce que ça, c'est un débat qui est absent au Royaume-Uni?
Le débat est absent, mais ça peut arriver parce que fait Johnson ? Très possiblement, il est en train de casser son jouet. À mon avis, il est en train d'essayer de casser son jouet parce qu'il veut le pouvoir à tout prix, et que donc avoir le pouvoir à tout prix maintenant, ça veut dire se passer du Parlement, le court-circuiter, et avoir un lien direct avec le peuple qui va essayer de constituer avec des élections. Mais là, ce qu'il a fait, la brutalité qu'il a exercée vis-à-vis de ses propres institutions, elle n'est pas très gênante pour le moment, mais la stratégie, elle a quelque chose d'anti-représentatif, de style au système représentatif.
Alors, vouloir avoir le pouvoir à tout prix, ça peut aussi vouloir dire vouloir le pouvoir absolu, ce qui nous ramène beaucoup plus loin dans l'histoire de la politique britannique et anglaise.
Thank you.
Peut-être aurez-vous reconnu Denis Barranger, l'ouverture de l'opéra d'Henry Purcell, Didon et Aîné. Purcell, compositeur anglais, qui crée cet opéra en 1689, dans l'histoire des institutions anglaises. C'est un moment extrêmement important parce que c'est cette année-là. Je vous laisse poursuivre.
La glorieuse révolution. Ça, c'est la réponse.
Et c'est le Bill of Rights.
Et c'est le Bill of Rights, voilà. Alors,
qu'est-ce que c'est le Bill of Rights et en quoi c'est constitutif de cette façon si particulière qu'ont les Britanniques de faire de la politique?
Les monarques Stuart qui avaient gouverné l'Angleterre depuis 1603 et qui étaient d'origine écossaise avaient un projet qu'on pourrait qualifier d'absolutiste, à la française, s'apparentant à celui de Louis XIV sur le continent. Ils se confrontent très rapidement au Parlement britannique et à travers lui à l'aristocratie qui refuse ce projet, qu'il refuse d'autant plus qu'il y a des sonorités ou des consonances catholiques ou crypto-catholiques au projet des Stuart et qu'eux sont des protestants. La guerre entre les monarques Stuart dure très très longtemps, de la fin des années 1630 jusqu'à 1689. Et en 1689, le dernier roi Stuart, Charles d'Angleterre, quitte le pouvoir. On considère qu'il a abdiqué en quittant le territoire. Il n'y a plus de parlement, parce que le parlement, c'est encore aujourd'hui le cas, roi plus chambre des communes plus chambre des lords. S'il n'y a plus de monarque, il n'y a plus de parlement.
Ça, c'est vrai que c'est important. C'est Je fais une petite parenthèse à dire. Hein. C'est-à-dire le roi, la reine fait partie du parlement.
La reine fait partie du parlement, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Bien, comme le roi a quitté le pays, on fait une convention avec les deux chambres. Et les deux chambres font en substance, on va résumer parce que c'est un processus compliqué, deux choses. Elles adoptent une déclaration de droit qui est pas du tout universaliste à la française, c'est les droits du peuple anglais protestant, avec le droit de porter des armes, le droit de ne pas être oppressé par un roi, le droit de ne pas payer des impôts sans y avoir consenti, des rappels de liberté médiévale. Et ils appellent Guillaume d'Orange-Nassau, qui est un souverain protestant hollandais, en lui demandant d'être le nouveau roi. On considère que sur cette base-là, l'appel de la Convention au roi veut dire que la souveraineté est désormais partagée. Alors les historiens vous diraient, avant 1689, le roi était souverain en son parlement, désormais le parlement est souverain avec le roi dedans. Voilà. Le parlement devient souverain légalement, c'est-à-dire que les lois sont faites par un triple accord du roi, de la Chambre des communes, de la Chambre des lords.
Est-ce que cette souveraineté, aujourd'hui, on considère qu'elle est encore partagée au Royaume-Uni entre, d'un côté, le parlement, avec la Chambre des communes et puis la Chambre des lords, et de l'autre côté, le monarque? Ou bien est-ce que le temps ayant fait son œuvre, on est dans un partage peut-être, mais qui est évidemment très déséquilibré?
La Constitution britannique, c'est une stratification où on garde tout. Donc là, il y a encore une règle constitutionnelle qui est que pour avoir une loi britannique, vous devez avoir le triple consentement de la reine et des deux chambres. Depuis le 19e siècle, la reine gouverne avec l'avis de ses ministres. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle signe tout. Le dernier rejet d'une loi par la reine, c'est en 1707. Donc ça remonte un peu, si vous voulez. Donc maintenant, c'est le Premier ministre et son gouvernement qui disent à la reine, nous voulons que telle loi soit votée. Nous voulons que vous prorogiez le Parlement. Elle va dire oui automatiquement, sauf cas exceptionnel. Ça ne s'est pas produit au Royaume-Uni, en tout cas. Donc, on est dans un système parlementaire. Qu'est-ce que c'est en résumé qu'un système parlementaire? C'est un mariage réussi et fécond entre un gouvernement qui gouverne et une majorité parlementaire. Le gouvernement ne peut gouverner grâce à sa majorité. La majorité a besoin d'un gouvernement pour lui dire quoi faire et pour décider de la politique gouvernementale. C'est ce mariage qui est en train de se rompre actuellement parce que subir pour un Premier ministre deux votes de défiance et un vote de rejet d'une demande de dissolution quasiment dans les mêmes 48 heures, ça veut dire qu'il n'a plus la confiance. Il n'a plus la confiance d'une majorité de la Chambre des communes.
Pour autant, vous faites remarquer, Denis Barranger, que les textes anciens, qui remontent à plusieurs siècles, servent quand même toujours de socle. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, mais peut-être que personne ne souhaite le faire, d'en supprimer certains, en tout cas de moderniser véritablement les textes institutionnels?
Ça a été fait en permanence. Par exemple, la Magna Carta de 1215, elle a été progressivement abrogée, il doit en rester quelques articles en application. En réalité, c'est des gens très modernes, les Anglais. C'est ce que je dis toujours à mes collègues et amis français. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des gens dans leur club anglais à boire du thé, très passéiste, avec de la poussière. Absolument pas. Ils sont très progressistes, très modernistes, très efficaces. Et si ce système-là est conservé, c'est tout simplement parce qu'il marche. On a stratifié ce qu'il fallait. La reine ne commet pas d'erreur. Elle sait très bien quel est son rôle dans le système. Ce sont les majorités qui gouvernent. Et le peuple est normalement... Enfin, le Brexit est venu déchirer cette belle tunique. Normalement, le peuple est satisfait de la manière dont il est gouverné. S'il ne l'est pas, il y a des élections, on change de gouvernement.
la Chambre des Lords, par exemple, où on hérite d'une charge de manière héréditaire. Vous y voyez un lieu de modernité ?
C'est fini depuis 1998. Désormais, les pairies sont viagères. Et donc, les pairies...
Il en reste encore qui siègent, qui ont...
Et dans l'ensemble, c'est grosso modo terminé. Qu'est-ce que c'est que ces... Plus de 1000 personnes désormais à la Chambre des Lords. Grosso modo, qu'est-ce que c'est ? C'est l'élite politique, économique, éventuellement sportive du pays. C'est comme si on faisait un conseil économique et social avec des anciens hommes d'affaires, des anciens ministres, des gens connus, des journalistes, qui ont, etc. Donc voilà, c'est ça la Chambre des Lords. C'est plus Brad Sinclair, si vous voulez. C'est l'élite d'aujourd'hui du pays. On peut n'avoir pas envie d'être gouverné par l'élite d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas l'élite du passé.
Dans un ouvrage qu'il a publié récemment, le politologue Vincent Martini, son ouvrage ça s'appelle Le Retour du Prince, il fait le constat notamment d'une présidentialisation du parlementarisme, alors des parlementarismes en général. Est-ce que c'est ce qu'on observe aussi au Royaume-Uni, c'est-à-dire avec une très très forte personnalisation des premiers ministres et des tentatives, comme on peut le voir aujourd'hui avec Boris Johnson, peut-être justement de présidentialiser ce système politique?
Alors, jusqu'à maintenant... présidentialisation, non. Personnalisation, oui. Personnalisation, c'est un phénomène commun à toutes les démocraties et même les non-démocraties. C'est également le cas du Premier ministre britannique. Présidentialisation, non, parce que le Premier ministre reste le chef du parti majoritaire issu des élections, qui est choisi par la reine pour être également le chef de l'exécutif. Il y aurait présidentialisation s'il y avait un lien direct entre un chef de l'État et le peuple. Le modèle, c'est la France. Qu'est-ce que c'est que la France ? C'est un gouvernement parlementaire à surdétermination exécutive, c'est-à-dire que on a un vrai régime parlementaire à la britannique, mais on a mis au-dessus un président élu directement par le peuple, et le président, il a tellement de pouvoir que le fait qu'on soit gouvernement parlementaire, ça compte de moins en moins. Ce qu'on voit aujourd'hui, vous l'avez dit au début très bien, ce qu'on voit aujourd'hui au Royaume-Uni, on peut faire de lecture, on peut dire c'est une catastrophe, c'est une crise, tout ce qui casse la figure, on peut dire aussi c'est un succès du régime parlementaire, parce que ça veut dire que là, il y a des gens qui empêchent quelqu'un qui tente d'accumuler du pouvoir de manière possiblement illégitime, de parvenir à ses fins. Donc le Parlement... Écoutez, dans ces dernières semaines, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive que M. Salvini conduit une stratégie d'accès au pouvoir qui est bloquée par le Parlement italien et il y a une coalition qui se refait au Parlement contre lui. C'est à peu près ce qui est en train d'arriver à M. Johnson aussi, même s'il ne sera probablement pas démis de la même manière. Mais en réalité, il faut quand même se dire que les parlements ne sont pas antidémocratiques, qui sont souvent un dispositif de protection de la démocratie. Et là, on en a quand même deux belles illustrations.
Et est-ce qu'on pourrait dire que l'insularité participe aussi de cette capacité qu'a le Parlement britannique à se protéger, c'est-à-dire en ayant aussi une forme de capacité à résister au modèle extérieur, quoi, à rester intègre d'une certaine manière?
Les Britanniques se moquent éperdument de tout autre modèle politique que le leur, à part peut-être le modèle politique américain dans certains cas. Mais oui, ils sont insulaires dans leur gène, si vous voulez. C'est politiquement un système insulaire. D'ailleurs, le Brexit est le résultat de ça.
Alors que, pour le coup, c'est un système qui peut lui servir de modèle. Je vais citer, vous avez consacré un que sais-je au droit constitutionnel. Vous y dites notamment ceci, Denis Maranger. Les grands problèmes de la politique moderne et en premier lieu celui de la réconciliation de l'autorité étatique et de la liberté ont trouvé dans l'expérience constitutionnelle britannique des solutions qui servirent de guide, parfois de modèle, au reste des États occidentaux. Alors pour terminer, on va rester avec le personnage avec lequel on a commencé et qui est ce Premier ministre qu'on disait fantasque. On le qualifie peut-être toujours comme ça, c'est Boris Johnson. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Boris Johnson qui a donc fait une tentative de coup de force et qui, pour l'alimenter, use d'une rhétorique à laquelle vous vous êtes intéressé aujourd'hui.
Oui, une rhétorique de combat qui multiplie les références au grand discours guerrier de Winston Churchill en particulier, comme dans cette conférence de 2014. Boris Johnson cite son lointain prédécesseur du 10 Downing Street dans son discours historique du 4 juin 1940.
We will fight them on the beaches, right? We will fight them in the hills and in the landing grounds. We will fight them in the streets. We will never surrender.
Et Boris Johnson a même théorisé cet art oratoire. Selon lui, si Churchill savait si bien s'adresser à ses compatriotes, c'est qu'il privilégiait le vocabulaire anglo-saxon au détriment des tournures latines dans son usage de l'anglais. Pourquoi ? J'ai posé la question à une spécialiste de la rhétorique politique, Cécile Alduy.
Il y a deux choses qu'il met en valeur, Johnson, quand il parle de Churchill, c'est le choix du vocabulaire et après, le choix du rythme des phrases. Du point de vue du choix du vocabulaire, c'est vrai que Winston Churchill, en tout cas dans les exemples qu'il prend, choisit des mots d'origine anglo-saxonne et cette partie-là du vocabulaire anglo-saxon est à la fois un vocabulaire très commun du quotidien avec des mots très courts, streets, battles, par exemple, fights. Et alors que les mots d'origine latine, en général, sont des mots de plusieurs syllabes, assez compliqués, des concepts. Donc le vocabulaire d'origine anglo-saxonne fait mouche immédiatement parce qu'il est à un niveau de vocabulaire beaucoup plus accessible. Et c'est là que Boris Johnson marche un peu sur deux pieds en clopinant, parce que quand il décrit le rythme des phrases de Churchill, en fait, il décrit des périodes oratoires qui appartiennent au style classique, à la rhétorique cicéronienne. Et là, par contre, ça vient du latin et ça vient de la très bonne éducation à la fois de Churchill et de Boris Johnson.
Évidemment, ces références ne sont pas innocentes politiquement. Pour Boris Johnson, l'enjeu est bien de donner corps à une mythologie britannique pour exalter le sentiment national, un grand classique de la rhétorique politique.
Dans tous les pays qui sont devenus des États-nations, tous ces pays se créent une mythologie des origines. En France, au XVIe siècle, au moment où le français s'impose, avec l'édit de Villers-Cotterêts, des humanistes inventent partiellement le mythe que le français dériverait directement du grec, parce que c'est une origine très prestigieuse. Et ici, Boris Johnson repart jusqu'aux sources de l'insularité anglo-saxonne, puisque l'influence latine et surtout française dans la langue anglaise, elle vient d'une invasion des Normands en 1066. Donc revenir, au moins dans le discours, aux sources du vocabulaire anglo-saxon, c'est un peu une manière de dire, voilà, on refuse toutes les influences étrangères, y compris dans le langage. Mais c'est un leurre, c'est une illusion, parce que 60% du vocabulaire de la langue anglaise vient du français ou a une origine romane. Donc je ne vois pas comment Boris Johnson va se dépatouiller pour parler seulement avec des mots anglo-saxons.
Et cela fera peut-être partie des questions à étudier en cas de no deal. Une langue anglaise à 100% anglo-saxonne, pourquoi pas? C'était donc Cécile Adduy, chercheuse associée au CEVIPOF et professeure de littérature française à l'université de Stanford.
Un commentaire, Denis Barranger?
Oui, c'est des commentaires très intéressants. Moi, ce que je remarque, c'est que Boris Johnson, il est assez multicarte linguistiquement, qu'il parle un vocabulaire de plus en plus vulgaire et moins choisi à travers le temps. Et la question que je me pose, c'est si c'est volontaire ou non. Mais ça, on n'a pas la réponse.
On ne pouvait pas ne pas se quitter sans les Sex Pistols, Anarchy in the UK. Merci beaucoup Denis Barranger d'avoir participé à ce numéro de Politique, émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Séverine Cassard avec la prise de son Pierrick Monsigny. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Je vous retrouve lundi matin à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture avec Guillaume Erner. À 12h45, ce sera la suite dans les idées de Sylvain Bourmeau et dans un instant, le journal de 12h30.